L'heure des sages.
Bonjour à tous, bienvenue pour la première émission de L'heure des sages. Donc aujourd'hui, nous rencontrons Gelsomina Schittieri, italienne de la région de Naples. Nous allons découvrir avec elle la cuisine napolitaine, une tradition familiale qui se transmet de génération en génération. La cuisine a bercé son enfance, elle est devenue une passion. Et elle la partage aujourd'hui avec ses proches, tout en transmettant sa culture. Bonjour Gelsomina.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Bonjour, Gelsomina Schittieri. Et je suis née dans un petit village à côté de Naples. Et il s'appelle Bosco Trecase. Je suis née dans une famille vraiment merveilleuse et c'est tout.
Tu peux me raconter un peu comment tu es arrivée à Paris?
J'ai terminé l'université en Italie en sciences politiques. Après, j'ai fait des masters à Rome, donc j'ai laissé un petit peu le village où je suis née. Et après, j'ai fait beaucoup des voyages à l'étranger pour continuer les études et aussi pour voir un petit peu comment ça passe dans l'Italie. Et après, je suis rentrée en Italie et je me suis dit, d'accord, on va essayer à habiter à Paris. On va voir comment ça passe là-bas. Et donc, je suis venue, j'ai commencé à apprendre la langue française. Et après, je suis restée. Donc, ça fait 2 ans, un petit plus, que je suis venue ici. Le mois d'octobre, j'ai fêté mon 2e année. Et donc, j'ai commencé à être un étudiant des langues. Après, j'ai commencé à travailler aussi avec les enfants, et surtout avec les enfants bilingues, italo-françaises. Et j'ai commencé à faire l'enseignant des langues italiennes aussi. Et donc, je suis là. Je suis très contente d'être à Paris. Et j'ai connu beaucoup des personnes et je me sens bien.
Tu peux me dire d'où te vient ce goût pour la cuisine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que...
Et en fait, la cuisine, c'est part de la tradition et de la culture italienne, mais surtout dans le sud, je pense. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis née dans une famille qui habitait toujours dans un petit village, donc pas dans la grande ville. On a toujours un petit jardin. Et je me souviens que, par exemple, mon grand-père, il cultivait des légumes et des fruits. Et donc, on était toujours contentes d'essayer les fruits de la terre. Et comme ça passait, ma mère, surtout quand on était petite, parce qu'en fait, je suis grandie dans une famille très matriarcale. Et donc, ma mère, elle ne faisait pas beaucoup la cuisine, parce qu'en fait, on avait ma grand-mère et mes tantes. Et donc, je me souviens que, par exemple, le dimanche, ma grand-mère, elle faisait la pâte à la maison. Et c'était vraiment toujours une fête. Donc, elle faisait la pâte. Et, par exemple, moi, ma sœur, elle préparait la table. Et c'était vraiment tout un travail des femmes. Et je pense qu'elle a commencé de là. Et parce qu'en fait, après, moi et ma sœur, on faisait des petites choses vraiment très simples parce qu'on était vraiment enfants. Mais on profitait, par exemple, l'après-midi du samedi au dimanche. On faisait les invitations pour la famille. On faisait, par exemple, un petit spectacle des marionnettes. Et après, on offrait des petites choses qu'on faisait ensemble. Et je pense qu'elle a commencé comme ça. Après, par exemple, pour les anniversaires, j'ai commencé à faire des gâteaux. Et après, j'ai commencé à voir que quand j'étais dans la cuisine, je pouvais me relaxer, surtout quand j'étais à l'université. J'ai besoin vraiment de quelque chose pour me relaxer et pas être vraiment toujours dans les livres. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes voyages, et j'ai porté avec moi ce créneau qui était ma cuisine, ma culture. Alors, j'ai commencé à faire des choses comme, par exemple, la pizza. On faisait des fêtes le soir et tout le monde, par exemple, en Angleterre ou à Washington, oh, mais c'est trop bon, je vais essayer de le faire moi aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai transmis cette passion à beaucoup de personnes aussi. Et je suis contente parce que c'est comme une petite part de moi, de ma culture, et est dans cette personne. Et donc, d'accord, il se souvient, par exemple, qu'il a mangé une bonne pizza, mais aussi de moi, de mes traditions, parce que ce n'est pas seulement de manger, mais c'est de partager quelque chose.
Et les hommes d'ailleurs, est-ce qu'ils cuisinent hein, dans ta famille?
Pas trop. Je vais dire, par exemple, mon père, d'accord, il travaille, il retourne à la maison et il a déjà pu trouver le dîner déjà prêt. Mais, par exemple, mon frère, oui. Mon frère, il aime beaucoup. Il a habité pour un petit peu de temps à Milan. Et par exemple, il appelait à ma mère, elle disait, oh, tu sais, j'ai fait la lasagna.
Parce qu'il apprenait aussi avec vous et votre mère à
Oui,
cuisiner.
oui.
C'était pas que toi et ta sœur.
Non, en fait, il est un petit plus jeune. Et donc, il est un garçon aussi. Donc, la tradition, c'est aussi que pour les garçons, c'est plus difficile d'apprendre tout ça. Mais il aime beaucoup aussi de faire la cuisine et d'essayer des choses différentes. Donc, c'est. Ouais. Mais n'est pas quelque chose que tu peux vraiment trouver. Par exemple, si l'homme a l'exigence de faire la cuisine, il le fait. Mais sinon, c'est un petit plus difficile que tu peux trouver des hommes qui font la cuisine. Ou peut-être il a la passion vraiment très fort. Et donc, il fait, par exemple, les écoles de cuisine, il devient grand chef. Mais n'est pas la chose normale. Ce sont des exceptions.
Tu parles aussi pour les jeunes actuellement ou
Oui,
oui?
surtout dans mon pays,
Dans ta
oui,
région.
oui, parce que je ne peux pas vraiment généraliser parce que c'est l'Italie, c'est vraiment très différent, mais aussi la différence entre nord et sud, c'est vraiment net. Donc, je ne peux pas généraliser, mais je peux dire l'expérience, par exemple, de ma ville et de ma région. Oui, c'est un petit peu comme ça. Ils ne sentent pas le besoin de le faire parce que il a toujours quelqu'un qui le fait pour eux. Donc c'est. Et la première, c'est la mère, parce que on habite dans un coin où la mère, elle est toujours derrière l'enfant, le garçon et l'homme. Et donc, après la mère, la femme, elle doit faire la cuisine, elle doit faire le ménage et tout ça. Donc, maintenant, c'est peut-être un petit peu différent. Il va changer, mais pas vraiment beaucoup.
On va parler de la cuisine napolitaine plus en détail. Et visiblement, d'après ce que tu me dis, la cuisine napolitaine a quand même une grande importance pour toi par rapport à la transmission que tu en fais, ce que tu as appris auprès de ta famille et de ta mère notamment. Donc, tu peux me dire un petit peu quelles sont les origines de la cuisine napolitaine?
En fait, les origines sont plutôt romanes et grecques. On a beaucoup des influences vraiment très anciennes. Et aussi, Naples, elle était part du royaume de Sicile. Et donc, on a vu la domination française et espagnole aussi. Donc, on a pris aussi des choses des pays étrangers. Et en fait, la cuisine napolitaine, c'est une cuisine surtout après, dans les années de la guerre, mais aussi après, parce que en fait, le sud de l'Italie, c'était toujours plus pauvre. Et donc, il utilisait beaucoup les choses de la terre, donc des légumes et la pâte. La pâte était toujours sur la table. Et donc, la tradition, c'est de mélanger, par exemple, la pâte avec des légumes ou avec des haricots ou des lentilles. Mm-hmm. Parce que, en fait, tu peux avoir un plat complet. Et après, le premier plat, c'est vraiment tout est plein. Donc, c'est aussi une manière pour les personnes qui ne pouvaient pas vraiment acheter la viande, le poisson, pour avoir une alimentation régulière. C'est plutôt la pâte avec des autres choses. Et après, d'accord, il a commencé à faire une différence entre la cuisine plus pauvre et la cuisine plus riche. Pour exemple, la cuisine plus riche sont des gâteaux qu'on fait avec la pâte, avec des légumes, avec le fromage ou la mozzarella. Donc, des choses plus compliquées et des choses qui ont besoin de plus d'ingrédients. Donc, ce sont les personnes qui pouvaient l'acheter, faisaient le plat plus riche. Mais le plat typique, il est vraiment le plat plus pauvre. C'était, par exemple, les spaghettis avec les tomates ou les spaghettis avec l'ail, l'huile et le piment fort.
Donc on a vu les différentes influences d'autres pays du monde, comme la France, la Grèce par exemple. Est-ce qu'elle est influencée aussi par d'autres régions d'Italie?
Et non, pas du tout. Pas parce que je vais être arrogante ou superbe dans cette réponse, mais c'est simplement parce qu'on a des ingrédients qui, par exemple, différentes typologies des tomates. Par exemple, les tomates de San Marzano. San Marzano, c'est un petit village à côté de Naples. Et seulement là, tu peux trouver cette typologie de tomates. Donc, ce n'est pas pour être vraiment très fermé. Non, non, on est super dans notre région. Non, on n'est pas pour ça. Mais parce qu'on a des choses que tu ne peux pas trouver vraiment dans les autres régions. Comme les autres régions, on n'a pas, par exemple, on peut faire la polenta à Naples aussi, mais si tu la goûtes à Torino ou in Val d'Aosta, ce n'est pas la même chose.
Et donc, est-ce que tu peux me parler plus en détail donc, de cette cuisine très diversifiée de la région napolitaine? Qu'est-ce qu'on y mange? Les spécialités?
Et en fait, tout le monde il connaît la pizza. Donc, la pizza, c'est vraiment quelque chose de très typique de la cuisine napolitaine. Et après, la pasta. D'accord, les spaghettis sont la pâte plus connue, non, dans le monde. En fait, un petit peu partout en Italie, la pâte, c'est la première chose qui est la plus vite que tu vas manger. Et dans quelques familles, tu peux manger la pâte et après, par exemple, la viande ou le poisson avec une salade comme ça. Mais la pâte, c'est toujours sous la table des les Italiens. Donc,
c'est ce qu'on appelle le premier plat. Comment tu dis en italien?
Primo piatto. D'accord. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'en fait, un déjeuner ou un dîner typique, c'est le primo piatto, qui c'est toujours la pâte, ou pour exemple du riz. Mais tu peux trouver le riz surtout dans le nord d'Italie. À Naples, pour exemple, si tu dis « Oh, on fait le riz », ils te regardent un petit peu bizarre. Donc, tu peux faire le risotto comme premier plat. Et pour le secondo piatto, tu trouves la viande que tu peux faire dans toutes les manières que tu veux. Ou le poisson surtout dans les villes de mer. Et à côté du deuxième plat, c'est toujours quelque chose qui l'accompagne. Donc, peut-être des légumes, une salade, des pommes de terre, je ne sais pas. Beaucoup des choix qui accompagnent le deuxième plat. Et après, le fruit. Et pour terminer, le dîner, un dessert. Et ici aussi, on a beaucoup des spécialités parce que surtout Naples, elle est connue, par exemple, pour le baba ou pour la sfogliatella.
Qu'est-ce que c'est?
La sfogliatella, c'est une pâte feuilletée tout un tour. Et dedans, tu peux trouver, par exemple, la ricotta, ricotta doux avec des petits... fruits, l'orange caramélisé. Et c'est vraiment très connu et c'est le symbole de Naples et avec le baba. L'original, c'est avec le rhum. Mais aussi, maintenant, tu peux trouver le baba avec la Nutella ou avec la crème fraîche ou avec des fruits.
Je découvre que le baba au rhum vient de ta région.
Oui, c'est très connu. Et c'est... Oui, pour exemple, dans la ville de Sorrento, il fait les petits baba et il les met dans le limoncello. Donc, c'est vraiment très délicieux. C'est un peu alcoolique, mais pour une fois, ce n'est pas grave.
Vorria sapere perché si me vedite, facite sempre a faccia amareggiata, ma voi quante più brutta ve facite, più bella all'occhio miei ve presentate, io mo non saccia si ve n'accorgite, ma questi modo e brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta, è tante che ha già girato, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivare. Più tempo passa, più va raffreddata, me c'è va riscalda caffè squisita, o bella e casi pura va gelata, si ta delizia do caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modo e brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta, è tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Voi siete mamma del passatore, e io bellezza mia figlia cartare, se voi vi divertite a cagna cora, io faccio carte per senza denaro, bella pareglia fosse ma famore. Ma questi modo e brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta, è tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Ma questi modo e brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta, è tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.
Quelle autre spécialité vous mangez à part les pâtes, la pizza et les bons baba au rhum.
En fait, ça dépend aussi des les différentes périodes de l'année. Mm-hmm. Pour exemple, on a des traditions qu'on va faire seulement le période des Pâques, mm-hmm. ou le période de Noël, ou par exemple pour Carnaval. Et pour exemple, à Noël, c'est la tradition de faire un gâteau mm-hmm. qui s'appelle struffoli, qui sont des petits pois, fruits, et qu'on va les mettre dans le miel et dans petits bonbons. Ils sont typiques. Mais pour exemple, tu peux trouver presque la même chose en Sicile et je pense en Puglia aussi. Ils l'appellent d'une manière différente, mais les ingrédients sont les mêmes. Mm-hmm. Ou pour exemple, pour Pâques, on a la tradition de faire le casatiello. Casatiello, c'est comme une tarte, c'est un gâteau salé. C'est un petit peu lourd parce qu'en fait, on n'utilise pas l'huile, mais on utilise le gras mm-hmm. et du porc.
Ah oui.
Et tu peux trouver dedans le salami et le parmesan. Il est très haut mm-hmm. et les œufs aussi. Mm-hmm. Mais on fait aussi le casatiello, que c'est sucré.
D'accord.
Donc, par exemple, dans le sucré, tu vas mettre aussi le gras du porc mm-hmm. et aussi les petits fruits candy. Mais aussi, on fait un autre gâteau. Il s'appelle pastiera mm-hmm. napoletana. C'est un gâteau qu'on fait avec les graines, le sucre, la ricotta et des petits fruits caramélisés. C'est très, très connu à Naples, vraiment, dans le monde, on connaît la pastiera. Mm-hmm. Aussi parce que, d'accord, c'est typique des Pâques, mais par exemple, si tu viens à Naples, tu peux le trouver dans les pâtisseries, mm-hmm. parce que c'est vraiment très, très connu. Et
ça, tu as appris à le faire alors?
Oui, je peux le faire. Mmh. En fait, je l'ai appris dans ma tante. C'est la tante de ma mère. Mmh. Et dans la famille, elle était la femme qui faisait la pastiera napoletana. Mmh. Et donc, chaque année, elle a besoin d'aide, surtout quand elle a commencé à être un petit peu âgée. Et donc, moi, ma sœur, qu'on allait chez elle, on l'a aidée à faire la pâte et à mélanger tous les ingrédients et tout ça. Et chaque année, j'ai appris quelque chose de nouvel. Donc maintenant, je peux dire que je peux faire la pastiera napoletana. Et je remercie Adiangela qui a enseigné à faire ça. Ça, c'était vraiment une tradition. Parce que je me souviens, de quand j'étais petite jusqu'à quand elle est morte, vraiment, chaque année, c'était vraiment un rituel. Et donc, j'ai appris beaucoup dans mes tantes, dans ma grand-mère, mais aussi dans les dernières années, dans ma mère aussi, qu'elle est bravo à faire tout.
Là, tu me parlais des spécialités sucré pour les fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités, mais aussi en plats salés?
Par exemple, on a une catégorie des choses qu'on appelle rosticceria, mm-hmm. que c'est l'ensemble des croquets. Ils sont faits avec les pommes de terre mm-hmm. et tout entour avec une farine particulière qu'on va frire. Mm-hmm. Et il s'appelle croquet ou panzarotti. Mm-hmm. Ou on a aussi la pizza fritta, c'est la même pâte de la pizza, mais c'est frit. Et sur le top, tu vas mettre la tomate, un petit peu de mozzarella.
Donc, et au niveau des spécialités salées que vous mangez au moment des fêtes, etc., est-ce que tu peux m'en parler?
Par exemple, pour Noël, le jour avant de Noël, c'est la tradition de faire un très grand dîner. Avec toutes les choses de la mer. Donc, par exemple, on mange les spaghettis avec la sauce de tomate Et dans la sauce des tomates, on va mettre des fruits de mer, mais aussi c'est très typique de mettre le capitone. Capitone, c'est un poisson comme un serpent de la mer. C'est part de la famille des anguilles. Donc, on la met dans la sauce des tomates. Mais aussi, pour le 12e plat, on va le faire frit. Et aussi, on va manger une autre chose typique, c'est le bacala. C'est un poisson. Tu peux le conserver dans le sel. Ça, c'est vraiment, c'est typique de Noël, mais tu le peux trouver toute l'année. Et c'est un plat que j'ai découvert typique de l'Afrique aussi. Parce que c'est une manière de conserver des choses dans une manière qu'elles n'ont besoin pas, pour exemple, des frigos ou des lots particuliers. Et donc, tu peux les trouver dans le sel ou tu peux les trouver sèches. Donc, elle s'appelle stock. Et donc, tu peux le mettre dans la salade ou avec les tomates. Et le jour avant de Noël et le dernier jour de l'année, on fait cet grand dîner avec le bacalao frit. Dans certaines familles, ils le mettent dans la feuille de citron. Elle va le faire rôti. C'est vraiment des spécialités. Chaque famille, elle utilise la spécialité qu'elle préfère. Et ça, c'est vraiment typique. C'est presque le même dîner pour le jour avant Noël et le dernier dîner de l'année. La seule chose qu'elle change, le dernier jour de l'année, on va servir aussi les lentilles. Parce que une tradition dit qu'il porte de l'argent. Donc, c'est bon si on mange beaucoup de lentilles, comme ça, pour toute l'année qui vient, on est vraiment riche. Et les lentilles, ils sont accompagnés de la jambe des porcs. Donc, c'est un plat typique aussi qui va un petit peu à diversifier la tradition de poisson, parce que pour le dernier jour de l'année, on mélange un petit peu le poisson avec le porc. Donc c'est vraiment très, très traditionnel. Le capitone aussi, dans ma famille, c'est toujours capitone. Si on n'a pas le capitone, n'est pas Noël, n'est pas le dernier jour de l'année.
Est-ce que tu peux nous parler des vins?
Pour les vins plus connus sont les vins qu'on va cultiver à côté des Vésuvio. Donc, la fertilité, c'est majeur. Et on a deux très connues qualités des vins. Un blanc qui s'appelle Falanghina et une autre qui est noire, elle s'appelle Lacrima Christi. Et c'est une tradition aussi de faire le vin. Et donc, le mois d'octobre, tu vas voir toutes les terres tout autour de Vésuvio avec les contadins, mais pas seulement les contadins, parce qu'en fait, c'est une fête pour les enfants aussi. Et donc, tu peux voir tout le monde qui va à faire les excursions, les vignes et tout ça.
Et toi, tu as participé à ces fêtes dans les vignes quand tu étais petite?
Avec mon grand-père, oui. Parce qu'en fait, d'accord, il avait une terre avec des vignes, mais cette terre, elle était plus grande quand j'étais vraiment très petite. Donc, je ne me souviens plus. Mais je me souviens que j'avais peut-être 5-6 ans. On a fait une excursion dans les vignes. Et la tradition, c'est de presser
Le raisin.
le raisin avec les pieds. Mais maintenant, n'est plus comme ça. Mais on était petite, donc mon grand-père, il avait dit, oh, on fait comme la tradition. Et donc, je me souviens que moi et ma sœur, on a pressé les raisins avec les pieds. Et donc, parce qu'il disait que les gouttes, c'est différent. Et à l'époque, on n'avait pas les machines, donc c'était une manière plus facile pour les presser. N'était pas vraiment chaque année, je me souviens peut-être une ou deux fois. parce que les vignes n'étaient pas beaucoup. Par exemple, dans les écoles, ils organisent le mois d'octobre faire ça avec les élèves.
Encore maintenant, tu veux
oui,
dire?
Oui, oui. Donc, c'est une manière aussi pour retourner à la terre, vraiment les traditions et qu'on l'a vraiment perdu maintenant. Mais...
Eh bien, t'as une belle enfance, toi.
Oui.
Je pense qu'on ne peut pas parler de la cuisine napolitaine sans parler de Naples.
Oui.
Et je ne sais pas si toi, tu as des petites choses à nous raconter par rapport à cette ville. J'ai cru comprendre qu'à Naples, c'était une ville aussi où on mangeait beaucoup dans la rue. Il y avait plein de petits shops, des choses comme ça.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, à Naples, tu n'as besoin pas d'avoir une boutique pour vendre. Donc, tu peux trouver, par exemple, des petits trucs dans la rue aussi. Je vais dire, par exemple, je te parlais tout à l'heure des panzarotti et des zeppole. Donc, tu peux trouver un petit camion qu'il va faire les zeppole panzarotti frits. Et donc, il le met dans un petit papier et le vend comme ça. Beaucoup de choses différentes que tu peux trouver dans la rue aussi. Oui, ou pour exemple, des biscuits particuliers de la tradition, ou pour exemple, je sais pas, des petits poissons qu'ils frient et ils vendent comme ça. Oui, oui. C'est vrai. N'est pas nécessaire la boutique, parce qu'à Naples, on dit que on trouve travail partout. Donc, on est très créatif en ça.
Donc, j'imagine qu'aux heures du repas, toutes les rues sont pleines de gens qui... pas toujours.
Ce n'est pas vraiment comme ça. Parce qu'en fait, les heures des repas, tous ils ferment. Ou presque tous. D'accord, dans la grande ville, un petit moins. Pour les alimentaires, c'est un petit peu différent. Mais la règle, c'est vraiment partout comme ça. Parce que, d'accord, dans le centre de Naples, oui, tu peux trouver beaucoup de monde. Mais dans la périphérie, c'est vraiment... c'est déserte. Oui, oui, c'est comme ça.
Bon. Bah, écoute, on va cuisiner.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu vas préparer?
Et je vais préparer un plat très vite. Et il s'appelle spaghetti alla puttanesca. C'est un plat qui c'est de la tradition de Naples, napolitaine, mais aussi de la tradition des Rome et de la région de Lazio. La chose différente sont les ingrédients qu'elle change un petit peu, mais l'idée c'est la même. Donc, qu'est-ce que signifie puttanesca? C'était un plat très vite à faire dans les maisons closes. Donc, on va le préparer, on va faire les spaghettis, on va faire une sauce avec les tomates fraîches, et avec les olives noires, avec les capres. Et
après, on va déguster tout
oui.
ça.
La pasta alla puttanesca. Et je vous présente les ingrédients. On commence avec les tomates. Vous pouvez prendre les tomates fraîches ou aussi les tomates dans la boîte. On a besoin de l'ail et des olives noires. J'ai ramené de l'Italie des olives que mes parents ont là dans le jardin. Donc, sont très spéciales, mais vous pouvez prendre tous les olives noires que vous trouvez dans le supermarché. Ça va bien. Et aussi, on a besoin de capri et les spaghettis, c'est bien si vous cherchez des spaghettis un petit plus grands, pas trop fines, comme ça, ils absorbent plus les gouttes. Donc, j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle et avec l'ail. Juste une minute, comme ça l'ail il s'est réchauffé un petit peu. Et après, j'ai mis les tomates. Vous tournez un petit peu. Et en même temps, vous préparez les capris et les olives. Je vais dire, par exemple, pour les capris, vous les lavez un petit peu parce qu'ils sont très salés. Et pour les olives, vous allez enlever les noyaux. Et donc, après, dans les tomates, vous mettez les capris. Vous tournez un petit peu. Et après, au même temps, on va mettre l'eau pour la pâte. Parce que les tomates, il ne doit pas cuire beaucoup. Et alors, quand vous tournez pour 110 minutes, les tomates avec les capris, et vous ajoutez jusqu'à à la fin les olives. Je vais dire à la fin quand la sauce elle est presque prête. Avant de mettre les olives, vous allez enlever l'ail. Comme ça, le goût n'est pas trop fort. En fait, on utilise toujours l'ail quand, par exemple, dans la sauce des tomates, on met quelque autre chose, aux légumes, ou pour exemple les olives dans cette case-là. Mais par exemple, quand on fait la sauce des tomates tout seul, on utilise l'oignon parce que c'est plus délicat et il absorbe beaucoup des gouttes, la tomate avec l'oignon, parce qu'à la fin, vous ne le levez pas. Mais aussi, quand vous utilisez les tomates fraîches, vous utilisez l'ail aussi, parce que les tomates fraîches, elles ont un goût un petit plus important, et donc c'est plus proche l'ail que l'oignon.
Est-ce que tu sers cette recette avec du fromage ?
Non, pas de fromage, parce que quand dans la sauce, on va mettre l'ail, on ne va jamais mettre de fromage sur le top. Donc, il se sert comme ça, maximum. Vous pouvez mettre un petit peu de basilic ou des autres herbes que vous préférez, mais pas de fromage, pas du tout. Parce qu'en fait, il va couvrir le goût dans cette case-là. Mais, par exemple, quand vous faites des sauces avec l'oignon, le fromage, c'est bienvenu. Donc, ça dépend aussi de la recette. Et aussi, vous pouvez mettre un petit peu de piment fort, si vous préférez, ou un petit peu de poivre, comme vous voulez, mais pas de fromage, pas du tout. Donc, après que les spaghettis sont prêtes, on va lever l'eau. Et après, on va mettre les spaghettis dans la poêle avec les tomates, les olives, les capris. On va tourner tout très bien. On le laisse un petit peu sur le four. Juste 2 minutes. Alors, on a terminé. Et donc, on va servir maintenant avec du vin rouge. Il s'appelle à Aianico. C'est un vin rouge vraiment très délicat et pétulant. Et il vient des montagnes d'Avellino. Avellino, c'est une ville à côté de Naples. Et cette ville-là, c'est fait sur les montagnes d'Avellino. Donc, c'est bon pour accompagner la pasta alla puttanesca.
Merci beaucoup, Gelsomina. Donc, on vous souhaite un bon appétit. Et puis, nous-mêmes aussi.
Ah oui. Bon appetito.
Una casarella, vita da rosa, coppe gamaldola, corria da me. A cerenella, un sposi a sposa, con una gondola, a me per te. Tuppada, tuppada, ma ridirassi, tu verbe grazie,
fino a rapire. O amore è facile, tutto difficile, si ha da succedere, succederà. O amore è facile, tutto difficile, si ha da succedere, succederà. La luce della buca del sole, cuore di anemate che anda da te. Sta faccia bella, mie se lenzola, spasa per l'astica, corria per te. Corria a nascondere, quando passasse, te fava sannate, tu fosse a te. O amore è facile, tutto difficile, si è da succedere, succede a te. O amore è facile, difficile, si è da succedere, succede a te. Cunnulella, ninna picciusa, cuocero e fravola, pulie mamma. Gnora vavella, un occhio fuso, manda bucannala, Michele e ma. Notte silenzio, lieta sincera, coi braccia stringermi, vorria sentire. Tu amore è facile, tutto difficile, si è da succedere, succede a te. Tu amore è facile, tutto difficile, si è da succedere, succede a te.